toujours sur Acidule 102.8 et nous retrouvons Tôle ondulée, notre rubrique hebdomadaire, on peut dire ça comme ça Marc?
Oui c'est sûr, presque toutes les semaines on retrouve notre rubrique Tôle ondulée avec bien sûr Max. Bonsoir Max. Bonsoir. Max qui est l'antenne extérieure de l'ADPS, l'Association de défense des prisonniers de Suisse.
Il n'a pas vraiment l'air d'une antenne mais enfin.
qui est toujours fidèle au poste à notre émission. Alors je crois qu'il y a un beau menu sur la planche ce soir. Hein. Il y a
oui, pour notre résistance en direct.
De communication. Je crois que tu voulais commencer par une information toute fraîche.
Oui, vous savez que Christoph Clausen s'est rendu hier aux autorités à Moudon, au juge d'instruction Raymond. Et la gendarmerie et la police de sûreté ont informé naturellement les journaux et ont donné des nouvelles erronées, comme c'est leur habitude. Christoph Clausen avait de réelles envies de poursuivre et de se réinsérer. Et cette chance ne lui a pas été donnée. Vous savez que le 19 janvier, alors qu'il y avait eu des grèves à Bochu, un certain nombre de personnes, 7, avaient été transférées dans d'autres pénitenciers. Christoph Clausen avait été transféré à Chandelon. Et ce transfert avait été parfaitement illégal. Ce transfert a été reconnu comme illégal par le juge par la suite. Et grâce à sa lutte et à la lutte de sa compagne, il a pu retourner à Bochu, mais alors qu'avant il occupait un poste qui lui permettait de passer le temps de manière correcte, il avait un poste de confiance. On ne lui a pas restitué ce poste, et au contraire, on l'a mis à un endroit qu'il ne prisait pas du tout, qu'il n'aimait pas du tout. Et on a suscité par là de nouveau en lui des humiliations, des vexations qui l'ont rendu, qui ont ressuscité en lui un état de révolte. Et il a décidé de s'évader. Il était malade. Et pendant toute sa cavale, il n'a pas cessé d'être malade. En réalité, il aurait pu quitter le pays. Il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir partir. Et bien que malade, il aurait pu le faire. Mais il s'est résigné à reprendre le point de départ parce que il avait réellement la volonté de s'en sortir. Et naturellement, vous me direz, mais alors cette volonté, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas eu dès le début? Ben, il y a un moment donné où le pénitencier et les humiliations qu'on y subit rendent le détenu dans de telles dispositions d'esprit qu'il a envie de se révolter et il a envie de partir. On crée l'évasion, on crée la révolte et souvent on crée aussi la férocité. Mais lui n'est pas dangereux, comme on s'évertue à le dire et comme la police s'évertue à le dire. Il n'est pas du tout dangereux. Et c'est précisément une personne qui avait l'envie d'en finir, d'en terminer, et on ne lui a pas donné cette chance parce qu'on a voulu provoquer en lui la révolte. On y est malheureusement arrivé, mais il faudrait que les auditeurs se rendent compte qu'il n'est pas le seul et que chez beaucoup de détenus, il y a ce sentiment de révolte qui est savamment entretenu par le service d'exécution des peines, en particulier à Bochu, où le crétinisme avancé du directeur passe bientôt dans la légende. J'en ai terminé pour cette petite nouvelle.
Est-ce qu'on sait ce qui va advenir de lui maintenant?
À vrai dire, je ne sais pas. Bien sûr, naturellement, les punitions d'usage, les 20 jours de cachot, si ce n'est plus, avec les coups probablement, parce que vous savez que les gardiens n'hésitent pas à faire passer leur rage sur les détenus. C'est du reste pourquoi le directeur ne désire pas que je revienne à Bochu, parce que lorsque j'étais visiteur, J'avais les yeux trop ouverts et la langue trop bien pendue, et ça lui a déplu. Et il a estimé que ces informations étaient au contraire de la désinformation, alors qu'en réalité, je puis vous dire, à Bochu, ça va mal, parce que tant à la colonie qu'au pénitencier, on maintient les gens dans un état d'infantilisme et on fait tout pour qu'ils ne se réinsèrent pas. Et ceci est cautionné par le terroriste suprême qui est Leba.
Très bien, merci Max. On va passer au Bois Mermet. Je crois que oui. Tu avais une réponse à une lettre d'un détenu de Michel Sauge.
Oui, Michel Sauge nous a écrit pour nous rendre attentifs au fait que le Bois Mermet est dans un état de délabrement du point de vue le service sanitaire et les installations habituelles sont dans un état de déréliction avancée, et en particulier la literie. Et je voudrais dire un grand merci à Michel de nous avoir écrit. Je sais que la literie et les couvertures sont aussi sales au Bois Mermet que les tréfonds de la mentalité du Conseil d'État vaudois. On cache ce qui est sale, n'est-ce pas là l'illustration de l'hypocrisie? Pour avoir séjourné 2 mois au Bois Mermet en 1982, je sais que tout ce que tu as décrit dans ta lettre est vrai. Nous savons que des détenus ont déjà été atteints d'impétigo à cause du manque de propreté de l'équipement lexical. Je te sais gré de témoigner de l'intérêt pour l'ADPS qui est notre affaire à tous, détenus et ex-détenus, et même futurs détenus que sont les hommes libres, sursitaires qui s'ignorent, car la répression amorce la spirale infernale de la démesure. À toi et à Franck Forêt aussi, qui a des moments de passage à vide, je te transmets mes plus chaleureuses salutations et fraternelles embrassades.
Voilà, je crois que c'est transmis. Et puis on va parler de Jacques Fazel, parce que la semaine dernière, on avait parlé de Jacques Fazel, de son procès. Tu nous avais fait une relation du procès de Jacques, et je crois que tu vas nous parler maintenant de deux lettres qu'il a écrites à la DPS.
Oui. Vous savez que récemment, les gitans ont défrayé la chronique. Et Jacques, qui aime la liberté, qui est un enfant de la liberté, m'a transmis une lettre. Et sur voisinant l'adresse, on pouvait lire « Un pays qui a perdu ses nomades est un pays qui a perdu sa liberté ». Ainsi donc, Suisse, vous autres et vous qui m'écoutez, c'est vrai, sachez-le, en Suisse, on se croit libre, mais on ne l'est pas. On a beau avoir un passeport à croix blanche qui nous donne la possibilité de voyager partout, eh bien, voyez, même en Suisse, des gens qui ont le passeport suisse ne peuvent pas voyager librement. Alors, il écrit ceci, Jacques. « Pendant des décennies, les autorités compétentes ont essayé d'assimiler les gitans, les manouches, en leur volant leurs enfants. En vain. À la même époque où Pro Juventute reconnaît enfin ses agissements passés et où le président de la Confédération s'excuse publiquement de ses pratiques auprès des gitans, en 1986, les autorités de nombreuses communes suisses continuent à leur manière la chasse aux sorcières. En condamnant les rares terrains où les gitans voyageurs ont l'habitude de s'arrêter, en multipliant les tracasseries administratives et policières à leur encontre, elles font preuve de racisme, même si ce racisme ne porte pas son nom. Ce n'est pas étonnant que parfois des gitans en viennent à être désagréables sur leur passage. Tout au long des siècles, les gitans ont vu leurs différences méprisées. Pauvres populations sédentaires, qui encore aujourd'hui rejette une minorité par tradition mouvante, que sa mentalité a peu changé. Pourtant, elle aime aller se divertir dans les fêtes foraines, très souvent animées par les forains voyageurs. Nous nous élevons contre l'entrave au libre séjour des gitans sur leur terrain traditionnel et nous nous sentons solidaires avec eux. C'était une lettre pour la DPS écrite par Jacques.
Maintenant, il y a une seconde lettre, je crois.
Il y a une seconde lettre, oui, qui concerne deux Turcs. Et il faut que les gens sachent que beaucoup de Turcs sont des demandeurs d'asile, sont emprisonnés ici et on n'en a souvent plus de nouvelles. Et les détenus, entre eux, se rendent compte qu'un jour, il y a un demandeur d'asile turc qui n'est plus là et on ne sait plus où il est passé. Ainsi, par exemple, Azmet Aktürk, ressortissant turc, réfugié politique en Suisse depuis 4 ans, jusqu'en février 87. Il risque 5 ans de prison en Turquie pour activité antigouvernementale. Depuis le début de l'année, il était en relation avec le consulat de Yougoslavie en Suisse dans l'intention d'aller vivre dans ce pays. Il y a passé une partie de son enfance. Arrêté à Pâques à Fribourg, sans passeport, celui-ci étant au consulat yougoslave pour étude de son dossier, il a passé une semaine de détention. La police a voulu lui faire signer un arrêt d'expulsion vers la Turquie. Il a refusé, puis s'est révolté sans violence. Après un jour de cachot et de tranquillisant, il a disparu, emmené vers une destination inconnue. Le cas de Sahin Urtekin, ressortissant turc, réfugié politique en Suisse pour une durée d'un an, échu récemment. Arrêté à Fribourg, où il travaillait au noir vers le 30 avril 87, en détention à la prison centrale. Kurde, il aurait fui la dictature de son pays. Par ses nombreux contacts avec les opposants au régime turc en Suisse et son appartenance au Defsol, parti communiste en Turquie, il risque de graves ennuis à son retour au pays. À la mi-avril, Saint-Turc entrait pour la première fois et clandestinement en Suisse pour travailler. Dénoncés à leur arrivée à Fribourg, ils ont passé une semaine de détention avant d'être expulsés. Azmet et Sahin ont bénéficié déjà de l'asile en Suisse, donc les autorités savent très bien ce qui les attend chez eux. S'ils ne risquaient rien en Turquie, l'asile ne leur aurait pas été accordé. Pourtant, maintenant, ils sont assimilés à de simples travailleurs clandestins et traités comme tels. Mais en fuite de leur pays pour des raisons politiques ou simples travailleurs clandestins, ils la trouvent tous amère, la plus riche nation d'Europe. Ce pays qui, d'un côté, enferme les étrangers indésirables, non fortunés, mais qui gagnent honnêtement leur vie, et de l'autre, protège Mobutu, les chats, etc., leur fortune et celle de bien d'autres. Rouge de sang, ce pays, donc, fait de plus en plus gerber.
Merci, Max. Et puis, la DPS et la Ligue suisse des droits de l'homme, section vaudoise, ont remporté une grande victoire. Je rappelle peut-être que vous aviez déposé un recours au tribunal fédéral contre le règlement, un nouveau règlement des prisons préventives vaudoises qui interdisait en fait aux détenus de recevoir des paquets en dehors des périodes de Noël et de Pâques. Et vous aviez déposé un recours contre cette décision et je crois que vous avez obtenu une victoire en tout cas provisoire.
Oui, c'est une victoire. Elle est provisoire, mais on augure beaucoup d'une victoire totale parce que le juge Antonioni, qui a signé le texte, dit que il y a 10 ans que la situation donnait satisfaction et qu'il n'y a aucune raison, au fond, de changer de régime, alors que tout était parfait, tout se déroulait naturellement. Et je vous lis donc le communiqué de presse que nous avons fait. Le 6 mars dernier, le Conseil d'État vaudois décidait avec effet immédiat d'interdire l'envoi de colis de nourriture aux prévenus en détention préventive. L'Association de défense des prisonniers de Suisse et la section vaudoise de la Ligue suisse des droits de l'homme ont recouru auprès du tribunal fédéral contre cette mesure qu'elles estiment contraire au principe de la présomption d'innocence et à la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle. Dans une ordonnance datée du 1er mai, le président de la Cour de droit public de la première Cour de droit public du tribunal fédéral vient de donner une première satisfaction au recourant, considérant que l'État n'a pas établi le caractère urgent d'une modification du règlement des prisons préventives, il a accordé au recours un effet suspensif, ce qui signifie que la décision attaquée n'est plus en vigueur jusqu'au jugement du tribunal fédéral, et donc que les colis alimentaires pourront continuer à être envoyés aux détenus en préventive dans les mêmes conditions que par le passé. La DPS et la Ligue suisse des droits de l'homme se déclarent très satisfaits de ce premier résultat favorable aux droits des prévenus. Maintenant, il faut dire encore que, en plus de ces deux associations, il y a deux personnes qui ont fait un recours. Il s'agit de Madame Muriel Tétu et il s'agit d'un détenu qui est actuellement au MAP, donc tout près de Bochu, et qui a subi du reste des reproches et qui a subi des sanctions de la part de l'autorité pénitentiaire. Une fois de plus, honte à elle, des sanctions donc pour avoir usé des droits que l'État même, que la loi même lui reconnaît. c'est pour, une fois de plus, rendez-vous compte, chers auditeurs, que c'est l'État qui édicte ses propres lois, qui est le premier à ne pas les respecter. Enfin, on peut dire que nous avons rivé le clou au Conseil d'État vaudois, qui, par cette mesure mesquine, a voulu humilier encore les prisonniers. Eh bien, malgré tout, il y a tout de même, doit-on l'espérer à tout jamais, il y a tout de même des gens qui sont un peu plus sensés que les gens du Conseil d'État vaudois. Il faut les chercher, c'est encore heureux, parmi le personnel des juges fédéraux.
Et puis, est-ce qu'on sait quand interviendra en fait une décision finale?
Bon, la décision finale, il ne faut pas l'espérer avant 2 ans, environ 2 ans, peut-être 3 ans. De toute façon, peu importe, puisque nous obtenons maintenant satisfaction.
Oui, je crois que c'est l'essentiel.
C'est l'essentiel. Hein. Mais pour moi, le rejet de cette décision du Conseil d'État ne fait aucun doute.
Et puis, quelques nouvelles du courrier de la DPS, hein, en vrac.
Simplement, ça sera bref, c'est simplement pour dire que le courrier entrant à Bochus, c'est-à-dire que le courrier de l'extérieur vers l'intérieur est complètement bloqué dès qu'il porte la mention ADPS, dès que l'expéditeur est mentionné comme étant l'ADPS. Le directeur Clotty n'en peut plus de gaffer, de commettre des bévues, de donner libre cours à sa petitesse, à sa méchanceté. Et il nous dit que, à la suite de l'envoi subventionné, je constate que vous n'avez toujours pas compris la portée de la lettre que je vous ai adressée le 14 avril 87 et qu'un dialogue avec l'ADPS, tout au moins avec ses membres extérieurs, et il le met entre guillemets, n'est pas prêt de s'ouvrir. Donc, voyez que lorsque nous demandons le dialogue, il refuse, et quand nous sommes peu intéressés par un dialogue que nous savons inutile, lui alors nous entrouvre la porte pour nous signifier qu'après tout, il ne serait pas contre un dialogue, mais c'est en raison de notre attitude qu'il le refuse. Cet homme est un jocris, je pense qu'il finira sa carrière dans la honte, dans l'opprobre, parce qu'il n'est pas à la hauteur d'un directeur de pénitencier. Un directeur de pénitencier qui fait montre d'autorité ne se conduit pas de la sorte.
Autre chose encore ?
Je veux quand même citer cette petite lettre que m'a écrit le détenu qui a fait un recours au tribunal fédéral. Il nous dit ceci : je vous ai envoyé un témoignage sur mes conditions de détention au Maroc. J'y avais joint une lettre dont le juge me fait malheureusement. Je n'arrive pas à lire ici. J'y avais joint une lettre que le juge dont le juge ne veut malheureusement pas qu'elle vous atteigne. J'y parlais de mes conditions de détention en Suisse et de la sanction dont j'ai été victime pour avoir recouru contre le règlement des prisons limitant à 2 fois par an l'envoi des colis aux détenus. Vous voyez donc qu'il a fait un effort. Il faudrait que tous les détenus, ça c'est un appel que je fais ici, si possible tous les détenus, faites un maximum pour contrer le pouvoir qui vous opprime, parce que tout est une question de rapport de force. Si vous ouvrez la bouche pour parler, on devra forcément vous entendre. Liguez-vous entre vous, faites des pétitions, bougez, dérangez, subvertissez, désobéissez. C'est à ce prix qu'on sauvegarde les libertés.
On peut peut-être rappeler l'adresse de la DPS ?
L'ADPS est à la boîte postale 129, 1000 Lausanne 17.
Et puis, je ne veux pas te taquiner, mais tu deviens une véritable figure médiatique, parce que je crois savoir que tu as été interviewé par la concurrence, entre guillemets, par la radio romande. Mais oui. C'était pas pour parler de ça, mais je crois que c'est important pour l'ADPS, cette reconnaissance par la presse, pour pouvoir faire passer le message, puisque c'est peut-être un moyen d'être reconnu aussi par les autorités à terme.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Peut-être que maintenant, les médias se rendent compte qu'il s'agit de ne pas toujours émasculer des discours, mais que les discours plus musclés intéressent davantage les gens, et pour autant qu'ils disent la vérité. Et vous pouvez venir vérifier avec moi, vous pouvez vous associer à mon action, vous verrez si ce n'est pas la vérité.
Merci Max.
Tout de suite une petite pause musicale dont seul notre programmateur connaît le disque. Et puis on retrouve le conseil communal de Lutry tout de suite.
Il se lève, c'est long, il écrase son égo. Dans sa tasse de café, il éteint la stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Éteint dans la cuisine, mais la sécurité. Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours.
Où es-tu quand tu es dans mes bras? Que fais-tu? Est-ce que tu penses à moi? D'où viens-tu? Un jour tu partiras, où es-tu quand tu es dans mes bras?
Je fais des mauvais rêves. Sur un mauvais câble, dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique urgent et désirable une blonde décapitée dans sa décapotable. Un cauchemar, highway, lottery, fumée noire, une vente vorace tue au fond d'un couloir. T'en sors pas, cafard, Patrick. Idée noire, avalée par l'espace, au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir.
Quand tu es dans mes bras,
je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi?
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux m'enfuir.
Quand tu es dans mes bras,
je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire.
Voilà un disque pour les amis de Max, hein, de Lavilliers, je crois.
Oui, merci.
Et puis encore un petit mot, Max, je crois. Il reste encore quelques minutes avec nous, puis il parle encore.
Oui, mais vous ne dites pas que sous le téléscripteur, là, droit du téléscripteur, nous vient une dépêche, alors je vous la lis. C'est une adhésion à la DPS, et elle nous dit ceci. Salut à celui qui lit ma lettre. Ne regarde pas les fautes d'écriture, je ne sais pas écrire. Je ne suis pas allé souvent à l'école. Depuis le 5 mai, je fais partie de votre association de défense des prisonniers. J'aimerais que vous m'envoyiez des feuilles avec le tampon dessus et d'autres choses concernant l'ADPS. Je suis en prison parce que j'ai fait deux petits cambriolages. Je m'appelle Florian Godard, j'ai 19 ans et suis célibataire. Je suis prêt à collaborer avec vous pour aider tous les prisonniers. Je vous raconte... tout le monde, à toute la bande, j'attends de vos nouvelles. Merci Florian, Et rassure-toi, les deux petits cambriolages que tu as faits ne doivent pas compter pour grand-chose. Il y en a qui sont au Conseil d'État et qui cambriolent tous les jours.
On passe tout de suite du Conseil d'État à la politique communale, à l'UTRI. Bonjour Monsieur André Lichty, je crois que vous avez quelques petites choses à nous dire, quelques grosses choses aussi, sur le Conseil communal qui s'est tenu lundi passé, le 4 mai 1987, je dis tout maintenant, à 20h, en la salle du Conseil au château de l'UTRI.
C'est tout à fait ça. Bonsoir. Je m'associe là, aux salutations que vous avez données à Florian. Là, j'étais sensible aux quelques mots qui ont été dits, mais on va passer là, à l'objet qui nous occupe, à savoir l'ordre du jour là, de cette séance qui était assez chargée, avec un certain nombre de préavis municipaux. Je ne vais pas tous les citer, mais certains méritent quand même quelques commentaires. On peut dire d'abord que quatre candidats à l'agrégation à la bourgeoisie de l'UTRI ont réussi leur passage devant le conseil communal, mais signalons toujours 8 à 9 irréductibles qui n'entendent pas accorder la bourgeoisie de l'UTRI à des candidats étrangers.
C'est toujours comme ça, même dans les autres communes, d'après nos correspondants.
Excusez-moi, je n'ai pas le retour. et j'entends mal votre question, si on pouvait me le donner.
Excusez-nous. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Je voulais vous rassurer en vous disant que dans toutes les communes où nous avons des correspondants, le même problème se pose, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelques irréductibles face aux étrangers.
C'est ça. Ensuite, un autre point à l'ordre du jour concernait en fait le réaménagement d'une ancienne maison qui avait été acheté à l'époque, il y a quelques années, par la commune de l'UTRI. Et il s'agissait en fait de la réaménager pour la mettre à disposition des sociétés locales. Là, une discussion s'est ouverte sur l'attribution en fait de certains locaux de cette villa, alors qu'en fait ce n'était pas de la compétence du conseil communal, mais certaines considérations qui étaient émises dans le rapport de la commission, on fait réagir en particulier M. Claude Weber, conseiller communal socialiste, qui s'étonnait en fait qu'on consacre si peu de place en fait à un groupe d'éclaireurs qui en demandait un peu plus. Et on s'est aperçu en fait que seul on osait en fait s'attaquer qu'à ces jeunes et qu'en fait toutes les autres prétentions des sociétés locales n'étaient pas remises en cause. C'était assez symptomatique, et ce qui a valu une intervention de ce conseiller.
C'est la politique de la jeunesse.
C'est ça. D'un autre côté, cette villa, enfin certains locaux de cette villa étaient également convoités par une association qui a pour sigle l'Appel, une association qui vise à créer une garderie d'enfants à l'UTRI. Et elle n'a pas obtenu gain de cause, mais j'aurai l'occasion peut-être d'en reparler puisque cette création de cette garderie présente quelques difficultés et a fait l'objet en fait en fin de séance d'un débat relativement animé. Puis ensuite nous avons passé en fait à des préavis d'ordre très technique où il n'y a pas lieu de faire des commentaires particuliers. Si ce n'est des interventions de représentants du Parti libéral qui ont toujours en fait ce souci d'économie et qui se demandaient s'il était judicieux d'investir quelques dizaines de milliers de francs dans l'aménagement des combles du château pour y ranger des dossiers et y créer un bureau pour un dessinateur.
Ça, c'est la rationalisation de l'efficacité de l'administration, enfin la rationalisation
voilà,
du travail.
Oui. le conseil communal a accepté le rachat d'une parcelle qui est chère aux Lutriens, particulièrement aux habitants des Hauts-de-Lutry. C'est la parcelle du collège de Corzy qui avait été rachetée à l'époque par le canton en vue, en fait, du passage de la fameuse bretelle tant contestée et qui, semble-t-il, est maintenant définitivement abandonnée, ce qui a permis en fait au canton de restituer cette parcelle du collège de Corzy à la commune qui souhaite démolir l'ancien collège et en faire en fait ériger en fait de nouveaux locaux sportifs et également, je crois, un nouveau collège de relativement modeste dimension, mais ça, c'est pour
le futur.
Quelques années. Quoi. Puis, un autre préavis, en fait, a donné lieu à un débat intéressant où sont affrontées deux conceptions de la sécurité en matière de circulation routière. Il s'agissait, en fait, de profiter de la mise en régime séparatif et d'élargissement d'un chemin qui se situe également sur les hauts de Lutry, chemin relativement étroit. La commission chargée d'étudier ce préavis et la municipalité du reste proposaient de profiter d'élargir le chemin qui présente 4 mètres de largeur actuellement. Et nous avons assisté ici à une empoignade entre en particulier une représentante du GPE qui mettait en doute l'utilité de l'élargissement. Elle a été appuyée par Monsieur Turati, conseiller communal libéral, mais qui lui défendait plutôt une fois de plus, en fait, c'était son souci d'économie qui l'incitait à intervenir. Les positions étaient les suivantes, celles bien connues. Le GP appuyé en fait par le Parti socialiste prétendait que la largeur de 4 mètres exerçait en fait un effet dissuasif sur les conducteurs et évitait qu'ils ne circulent à une vitesse trop élevée, alors que la municipalité et la majorité de la commission, par souci en fait d'efficacité, prétendaient au contraire qu'il valait la peine d'élargir à 5 mètres puisque ce chemin permettait à un nouveau quartier de se développer, qu'il fallait offrir en fait un confort aux automobilistes qui étaient en même temps propriétaires des maisons qu'alimentaient en fait ce chemin. Mmh. Alors en fait, on voyait une fois de plus cet affrontement entre les personnes qui sont soucieuses de sécurité et qui croient plutôt à l'effet dissuasif et modérateur du trafic par des chicanes ou par des chemins et des routes pas trop larges, et l'autre conception particulièrement défendue par les représentants du Parti radical et par la municipalité qui est également radicale, et qui prétend qu'au contraire, il faut élargir pour permettre aux piétons d'avoir une bande de sécurité sur les bords du chemin. Maintenant, et pour ne pas allonger, j'aimerais peut-être parler encore d'une communication municipale intéressante, puisqu'elle répondait à une longue démarche qu'ont entreprise un groupe de femmes à Lutry en vue de la création d'une garderie d'enfants qui tarde à pouvoir être créée et qui répond à un réel besoin, puisqu'en juin 82, un groupe de femmes avait déposé une pétition sur le bureau du conseil communal, pétition à laquelle la municipalité avait répondu de manière relativement nuancée et prometteuse, bien qu'elle ne désirait pas du tout la municipalisation de cette garderie, mais elle
encourageait,
en fait l'initiative privée et de manière relativement encourageante en fait pour ces mères de famille qui ont effectivement se sont engagées à créer une association en vue de la création d'une garderie à Lutry. Elles ont fait un travail considérable et après avoir en fait créé cette garderie et défini de manière très claire un budget, les objectifs et les besoins particulièrement locaux qu'elles entendaient demander à la municipalité, elles se sont heurtées à une réponse extrêmement sèche de la municipalité, une réponse de non-entrée en matière qui les a pour le moins surpris. Et alors que le Conseil n'avait pas, en fait, à décider quoi que ce soit sur cet objet, il est quand même entré en matière et le DAB a été lancé, en particulier par M. Michel Rey, conseiller communal socialiste, qui a relevé, en fait, la manière cavalière de traiter les gens qui avaient investi beaucoup de temps et d'énergie en vue de la création de cette garderie. Et il vaut peut-être la peine de citer quelques phrases qu'on trouve dans cette communication municipale et qui montrent un peu l'esprit dans lequel la municipalité actuelle de Lutry aborde ces sujets.
Oui, parce que je crois que le débat a été très vif, malgré que le conseil communal n'ait pas à se prononcer, en fait.
C'est exact, oui. Et on peut lire, entre autres, que dans cette communication municipale, qui dit que nous avons le sentiment que la garderie que vous projetez ne répondrait pas aux critères véritablement sociaux qui justifieraient alors l'aide communale. Un peu plus loin, nous sommes d'ailleurs unanimement opposés au principe de financer une entreprise dont l'une des caractéristiques serait de favoriser le travail de mère de famille dont la situation économique ne le nécessite pas. Nous pensons que les personnes qui souhaitent conserver leur activité professionnelle, ce que nous comprenons très bien, doivent être en mesure d'assumer la situation. Alors vous comprendrez qu'à la lecture d'une prise de position aussi ferme, les réactions aient été vives, à tel point que même dans les rangs libéraux, où en fait l'opposition aux propositions socialistes en général se manifeste de manière assez ferme, on a pu constater quand même un signe de solidarité, en particulier par une intervention de Mme Aguet, qui a soutenu l'intervention de M. Michel Rey, socialiste, et qui a répondu au syndic, qui prétendait que cette réponse n'était pas cavalière, mais courageuse. voilà en fait le point de vue de la municipalité.
Il y a des femmes dans cette municipalité ?
Alors dans cette municipalité, bien heureusement il y a une femme, mais nous devons effectivement regretter qu'en fait, en plusieurs occasions, nous avons en fait constaté qu'elle avait plus à cœur de défendre les positions du Parti radical plutôt que d'être sensible en fait aux préoccupations en particulier des femmes et
la population de la commune,
des couples et des familles qui étaient confrontés à des difficultés pour placer leurs enfants. Car il ne faut pas oublier en fait que Lutry est une commune résidentielle et que à moins de bénéficier en fait d'un salaire confortable, le couple, les deux personnes en fait qui forment le couple en général doivent travailler et que une garderie répond à un véritable besoin et soulagerait en fait bien des parents qui doivent se rabattre sur des solutions boiteuses et souvent s'adresser à la garderie de Puyi en particulier qui peut recevoir un certain nombre d'enfants.
Voilà, je vous remercie, je crois que c'était tout.
Voilà, oui, ça me paraissait être le sujet le plus important, bien qu'en fait il n'ait fait l'objet que d'une communication municipale.
Je vous remercie d'avoir développé ce point, parce qu'effectivement il est intéressant et important. Les auditeurs peuvent aussi se faire leur opinion à ce propos. Je vous remercie, André Lichy. On retrouve pour nous raconter le prochain conseil communal. En quelle date ?
Tout à fait.
Qui en quelle date ?
Je crois qu'il aura lieu le 29 juin.
Le 29 juin. Merci beaucoup et bonne soirée.
À vous aussi. Au revoir.
Et nous passons tout de suite, je crois, sans transition musicale, à un autre sujet de politique, mais de politique cantonale, cette fois avec Marc Boss, qui a des communications du Conseil d'État à vous faire parvenir.
Et puis également le programme des débats du Grand Conseil de la semaine prochaine. Alors, conférence de presse, en effet, du Conseil d'État cet après-midi. Diverses décisions ont été prises par le canton et quelques communications ont été données également. Tout d'abord, la plus importante décision qui concerne le château de Lons, qui a obtenu un dernier sursis. Le gouvernement vaudois a décidé de prolonger jusqu'au 15 juin le délai imparti à la fondation du château de la Roche à Olon pour présenter un plan financier pour la réhabilitation de la dernière maison forte du Chablais vaudois. La procédure de déclassement de l'édifice, qui est très détériorée, est donc suspendue jusqu'à cette date. Ainsi que le Conseil d'État l'a indiqué aujourd'hui, la Fondation a recueilli à ce jour une centaine de milliers de francs. 150 000 francs sont nécessaires pour engager la première phase des travaux. Si le but est atteint, le canton pourrait intervenir ultérieurement par le biais de subventions ordinaires. À l'issue d'un référendum, la commune avait refusé le mois dernier, on s'en souvient, d'engager les deniers publics dans cette affaire. Et c'est ce référendum populaire qui a fait que le délai imparti à la Fondation non de fait pu être respecté. C'est ce qui a amené en fait le Conseil d'État à fixer le nouveau délai au 15 juin. Et voilà, toujours à Olon, dans le cadre de la loi sur l'investissement dans les régions de montagne, la LIM, le Conseil d'État proposera à la Confédération d'accorder à la municipalité d'Olon un crédit LIM de 1 032 000 francs pour la réalisation de travaux d'assainissement qui concernent essentiellement l'épuration des eaux usées du village d'Arvet. En cas de décision favorable de la Confédération, le Conseil d'État accordera également un prêt de 322 000 francs et l'Office cantonal de la protection des eaux alloue d'ores et déjà une subvention de 373 000 francs. Un concours d'architectes pour l'îlot Ripon Tunnel va être organisé. Le Conseil d'État a approuvé le règlement et le programme du concours. Ce concours est organisé par l'État de Vaud, représenté par le service des bâtiments avec la collaboration technique et financière de la commune de Lausanne. Il débutera le 18 mai 1987. Une somme de 165 000 francs sera remise à la disposition du jury pour l'attribution de 7 à 9 prix et l'achat éventuel des projets. Le projet retenu constituera la base d'un nouveau plan d'affectation pour ce secteur urbain. Bientôt un crédit pour l'Institut de biochimie de l'UNI. Le Conseil d'État a autorisé le département de l'instruction publique et des cultes à ouvrir, sous réserve de l'adoption par la Commission des finances du Grand Conseil, bien sûr, un crédit d'études de 140 000 francs pour la construction de l'Institut de biochimie de l'Université de Lausanne. Cette étude bénéficiera de la collaboration active de l'ISREC, l'Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer à Épalinges. Une information un peu aride, mais avec beaucoup de chiffres à la clé, concerne le Fonds d'investissement agricole. Le Conseil d'État a pris acte du 24e rapport du Fonds d'investissement agricole, FIA, qui porte sur l'exercice 86. L'année dernière, le FIA vaudois a accordé 345 prêts pour un montant de près de 16,5 millions de francs, une augmentation de 2 millions par rapport à 85. De 1963 à 1986, le total des crédits qu'il a accordés s'est élevé à 276 millions de francs, soit 6,12% du total national. La loi fédérale de 62 sur les crédits d'investissement dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes, la LCI, a été promulguée pour encourager, par des prêts le plus souvent sans intérêt ou par des cautionnements, des investissements qui permettent d'améliorer de façon durable les conditions de production dans l'agriculture et de la rationaliser. De 62 à fin 86, pour toute la Suisse, des prêts ont ainsi été accordés à 50 000 exploitations privées et à 11 000 collectivités et établissements, pour un montant total de près de 4,5 milliards de francs. Ces crédits d'investissement sont essentiellement destinés à des améliorations de structures, des équipements communautaires agricoles, des maisons d'habitation et des ruraux, et à du cheptel ou à la reprise de domaines. Enfin, un nouveau règlement pour la formation professionnelle a été adopté. Plus précisément, le Conseil d'État a adopté un règlement sur la formation élémentaire en matière professionnelle. Alors, la loi vaudoise sur la formation professionnelle de 1983 prévoyait que le Conseil d'État arrête des dispositions d'exécution nécessaires à l'organisation de la formation élémentaire après consultation des associations professionnelles. Le nouveau règlement concerne donc les jeunes qui, libérés de la scolarité obligatoire et capables d'exercer une activité dans un milieu économique, ne sont pas en mesure d'entreprendre un apprentissage en raison de diverses difficultés personnelles. Ils jouiront d'un statut d'apprenti et la durée de formation en est en principe fixée à 2 ans. Voilà, c'est tout ce qui concerne la conférence de presse du Conseil d'État de cet après-midi. Toujours au niveau cantonal, mais au législatif, cette fois, le Grand Conseil poursuit les travaux qu'il a entamés la semaine dernière. Je vais vous donner le programme des débats auxquels seront confiés nos édiles conseillers. Au menu du lundi 11 mai, on commencera seulement l'après-midi, le projet du décret, beaucoup de projets de décret, hein,
Alors, projet de décret accordant à la Fondation Pré-Parisais à Puy une subvention et la garantie de l'emprunt ainsi que la prise en charge du service de la dette pour financer la construction d'un deuxième établissement médico-social du centre de Puy. Projet de décret accordant un crédit complémentaire pour la transformation de l'hôpital Nestlé. Un rapport du Conseil d'État au Grand Conseil sur la motion Pierre Sanchi du GPE et consorts demandant l'amélioration des moyens de contrôle de la commission de gestion. Un projet de décret toujours relatif à l'aide aux communes dans la démographie scolaire est élevé. Projet de décret également accordant un crédit pour le financement des ouvrages de protection civile. Projet de décret demandant un crédit pour la construction partielle du home chez nous et un rapport du Conseil d'État au Grand Conseil sur la motion d'André de Mouret et consorts concernant l'étude sur les institutions vaudoises accueillant les enfants et adolescents en difficulté. Motion Michel Margot, radical et consort, demandant la modification de la loi du 28 novembre 1916 sur le service de défense contre l'incendie, collaboration des femmes aux mesures de protection contre le feu. Donc, futures femmes pompiers, réjouissez-vous. Voilà, je crois qu'on va en rester là pour le programme du Grand Conseil.
On donnera le programme
du mardi et du mercredi. Enfin, je peux déjà vous dire, ça c'est
lundi.
Vite dit.
Non, mais ça sera lundi.
Que mardi après-midi, la réception aura lieu du nouveau président du Grand Conseil, François Gaillère.
Quand même, parce que je crois qu'il l'avait un peu oublié.
Mais je crois que cet oubli va être réparé.
Oui, d'accord.
Voilà, Patricia, pour ces informations cantonales.
Merci. Et on passe tout de suite, avec un tout petit peu de musique de fond, j'annonce ça, au conseil communal de Lutry. On a déjà fait le conseil communal de Lutry. Non, on passe au conseil communal des Palinges, pardon. Et on retrouve Monsieur Louis Gras. Bonsoir, Monsieur Louis Gras.
Bonsoir.
Vous avez suivi ce conseil communal qui s'est déroulé mardi soir?
Mais oui, je l'ai suivi. Et il revêtait un lustre très légèrement particulier, car... le préfet Husson avait honoré les conseillers de sa présence.
Oui, alors ça, c'était la représentation cantonale au Conseil communal des Palinges.
Plusieurs députés étaient là, d'autres se sont fait excuser, comme cela se produit bien souvent.
Et puis, il y a eu des admissions à la bourgeoisie, je crois.
Oui, mais avant d'admettre de nouveaux bourgeois... à Épalinges, il a été préférable d'adopter tout d'abord une modification du règlement concernant l'admission à la bourgeoisie. Mm-hmm. En effet, la pratique a démontré que certains requérants n'obtiennent pas le décret de naturalisation du Grand Conseil dans le délai de 2 ans. C'est notamment le cas pour les candidats qui, aux yeux de la Commission cantonale des naturalisations, ne sont pas suffisamment assimilés aux us et coutumes vaudois. Par exemple, s'ils sont musulmans et ne boivent pas de vin, ils ne sont pas toujours au courant de la différence entre du Lavaux et du Lacôte. Cela pose certains problèmes. Et alors, il était nécessaire de modifier ce règlement dans ces cas-là, et c'est la raison pour laquelle, désormais, l'admission à la bourgeoisie ne sera... disons, le nouvel article sera rédigé de la façon suivante. L'admission à la bourgeoisie est nulle. Si le requérant étranger au canton n'a pas obtenu du Grand Conseil un décret de naturalisation, dans le délai de 3 ans et non plus de 2 ans, à partir de la décision du Conseil communal.
Voilà, alors une année supplémentaire pour apprendre à distinguer le Lavau de la côte.
Voilà.
Je pense que ça sera assez quand même.
Ça va suffire.
Et alors après cela, le Conseil a pu admettre à la bourgeoisie un ressortissant libanais et allemand et un ressortissant suédois.
Mmh. Oui. Et puis,
nous avons passé à la suite de l'ordre du jour. Oui. La municipalité a répondu à une motion concernant l'utilisation gratuite des locaux et autres installations sportives par les sociétés...